On n'est pas dans une dark fantasy sombre et crépusculaire. Bien sûr, l'univers est sombre et parfois même glauque, mais les personnages sont assez truculents parfois, avec des décalages entre eux, notamment le personnage d'Alastor, qui est une sorte de chevalier, avec tout ce que ça comporte de courtoisie et de un peu excessive parfois, tout en étant un chevalier noir. Donc c'est aussi quelqu'un qui n'a pas tellement de scrupules.
Aurélien Morinière était de passage à la librairie Les Dragons pour une séance de dédicace à l'occasion de la récente sortie de sa bande dessinée « Alastor de sombre garde » parue aux éditions Oxymore. Peu avant, il nous a donné rendez-vous pour un interview de près de 40 minutes. Aurélien Morinière est revenu sur sa bande dessinée, sa conception, mais aussi sur les nouveaux défis que rencontre le 9e art aujourd'hui. « Alastor de sombre garde », la dernière bande dessinée d'Aurélien Morinière. Un reportage signé Explore le Mag, à la prise de son et au mixage Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.
Bonjour, c'est Aurélien Morinière, je suis dessinateur de bande dessinée et je viens parler aujourd'hui de ma dernière bande dessinée, Alastor de sombre garde. Hop, que voici. Alors, Alastor de sombre garde, scénarisé par Dobbs et édité chez Oxymore, c'est l'histoire d'un chevalier noir qui a été vaincu lors d'une grande bataille et qui part dans une pérégrination, une sorte de road trip avec un acolyte gobelin, moine gobelin, et qui part pour retrouver sa dulcinée dans les terres pourpres. Et voilà, donc le récit est chapitré un petit peu comme un récit de gestes, de poème épique, et se rapproche un peu de la construction d'un récit comme Don Quichotte, ou les récits de Chrétien de Troyes, ou enfin, ce genre de format-là. Et donc c'est pas à proprement parler de l'héroïque fantasy, c'est de la dark fantasy avec une structure un peu poétique et assez pittoresque et des petits ressorts comiques plutôt d'humour noir et de satire sociale. Dans ce monde-là, le bien a aussi son côté très tyrannique et violent. Et en fait, on voulait plutôt un univers où le manichéisme est un peu lissé et on a plutôt des nuances de gris. Et effectivement, on n'est pas dans une dark fantasy sombre et crépusculaire. Bien sûr, l'univers est sombre et parfois même glauque, mais les personnages sont assez truculents parfois, avec des décalages entre eux, notamment le personnage d'Alastor, qui est une sorte de chevalier, avec tout ce que ça comporte de courtoisie et de un peu excessive parfois, tout en étant un chevalier noir. Donc c'est aussi quelqu'un qui n'a pas tellement de scrupules, mais il est accompagné aussi d'un gobelin qui est plutôt sarcastique, un peu roublard, et ça fait des situations qui normalement devraient être vraiment sombres et sinistres, mais qui en fait finissent par avoir un ressort assez comique. On n'est pas dans le grotesque non plus, hein, mais ça reste un univers de fantasy, mais on a ce petit décalage qu'on avait à cœur de maintenir tout au long du récit avec Dobbs.
On spoil ou pas, mais par exemple il y a une scène où il marie les deux personnages, on se dit mais qu'est-ce qu'il vient faire?
Oui, en même temps il se retrouve à aider des gens parce que c'est son côté chevaleresque, mais à sa façon, c'est-à-dire qu'il a quand même ces petits, quand il bénit le mariage, il a quand même un discours qui est très empreint de son caractère de nécromancien, puisqu'il en fait il s'agit d'un nécromancien, et ça a un peu décalé. Il y a une partie des convives qui jette un œil un peu bizarre là-dessus. La mariée est ravie, le marié est un petit peu plus circonspect, mais c'est voilà, ça crée des petites scènes comme ça avec une sorte d'ironie et de cynisme dedans qui nous a beaucoup amusé à mettre en scène. Chaque événement aussi, même quand il aide les gens, ça a toujours un prix. Bah, ça reste un chevalier noir, un chevalier de la mort, donc ça a forcément un coût de se faire aider par un tel personnage.
Et puis même son réveil au début, enfin c'est le gobelin qui le réveille, il sort, il a une tête toute décomposée, puis il commence à prendre forme, et là on se dit ouais, il est pas si moche que ça.
Ça reste un chevalier, c'est-à-dire qu'il a ses valeurs, il a fait un choix en fait en devenant un chevalier de la mort, Mais on comprend quand même au fil du récit que même si ça ne correspond pas à l'image du bien qu'on a toutes et tous, il a un système de valeurs. Et on comprend aussi que ce qu'ils appellent bien dans cet univers-là a aussi une part de tyrannie et d'ombre qui n'est pas assumée, hein, mais qui est très très présente. Et en fait, un personnage comme Alastor va plutôt être un agent d'équilibre dans un monde qui peut basculer soit complètement du côté de l'ombre ou soit complètement du côté de la lumière. Et c'est jamais très bon d'être dans quelque chose de très tranché comme ça, dans des univers hyper manichéens et avec des valeurs définies comme des dogmes.
Et ça, justement, tu ne voulais pas le faire dans ce livre-là, je présume ?
Ce n'était pas le projet de Dobbs. En fait, Dobbs, au démarrage de ce projet, il avait envie de faire un récit de gangster dans un monde médiéval. C'est un peu ça le point de départ. Et toujours en mettant un peu à mal l'idée du manichéisme classique, on a plein dans notre référentiel, notamment cinématographique, on a plein de récits de gangsters où finalement les gangsters, on sait qu'ils sont mauvais, mais ils ont tout de même des systèmes de valeurs et on trouve les personnages finalement assez attachants, même s'ils font un tas de saloperies. Hein. Mais en tout cas, c'est un peu vers ça qu'ils voulaient se diriger. Et en récupérant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une construction chapitrée comme ce qu'on peut avoir chez Chrétien de Troyes ou dans Don Quichotte. Voilà. Alors un référentiel cinématographique et un petit peu aussi dans la littérature classique. D'ailleurs, dans les dialogues de Alastor, on retrouve un peu cette plume, un petit peu avec un petit parfum de médiéval qui donne un peu son caractère décalé à Alastor, qui est parfois... trop courtois pour les situations qu'il affronte.
Le sous-titre, c'est l'infâme gentilhomme. Ouais. On voit l'antithèse directe.
Ça résume assez bien le personnage, en réalité. Donc voilà, on a cette dichotomie qui est en permanence dans ce personnage et qui est aussi assez facilement révélée par le rapport qu'il a avec son compagnon, Gulgar, le moine gobelin. Donc lui aussi, c'est une sorte de vecteur qui révèle la nature profonde du personnage de Alastor, qui est aussi lisible dans le système de chapitrage, puisqu'à chaque chapitre, on a des illustrations et un journal intime, en fait, qui est écrit et dessiné par Alastor. Et donc, on peut lire quelques passages qui révèlent un peu les états d'âme et les réflexions d'Alastor, qui ne sont pas dites dans les bulles, mais ça donne de l'épaisseur au personnage. En fait, le journal intime est une sorte de fil conducteur sur tout le récit, puisque c'est on le voit un petit peu, il en est question dans certains passages. C'est un élément qui permet à Alastor de se raccrocher à son humanité, au final. Donc c'est pour ça qu'il y est très attaché.
Donc finalement, c'est l'infâme gentilhomme, mais dans sa vie d'avant, il n'était peut-être pas si mauvais que ça, en fait.
Alors, ouais, alors après, on peut même se questionner sur est-ce qu'il est vraiment mauvais ? Mais en tout cas, c'était quelqu'un d'autre, oui. Ouais, c'était quelqu'un qui était probablement plus proche du camp de la lumière contre lequel il se bat actuellement.
Ça, c'est intéressant, puisque dans le livre, ça ne nous l'est pas vraiment dit.
C'est suggéré à un moment, dans une scène de confrontation. Mais oui, c'est quelque chose qu'on peut deviner au fur et à mesure du récit.
Et ce gobelin, tu peux nous en parler un petit peu plus ? On ne connaît pas trop son histoire. On voit qu'il a aussi un certain maître dans sa canne.
Alors, c'est son frère, en fait. Il transporte un sceptre avec un crâne fiché dessus. Et le crâne n'est pas mort, en fait. C'est le crâne de son frère, qui était un mage très puissant. Et donc, il le transporte partout avec lui. Donc, on a aussi des dialogues un peu savoureux entre les deux frangins qui se chamaillent. Alors, l'histoire de Gulgar, ça sera l'objet peut-être d'autres récits. Encore à raconter. Mais voilà, il a aussi une histoire plus ancienne et ils se connaissent un petit peu avec Alastor. Ils font partie de la même caste, qui est une caste de mercenaires au service du mal, qui s'appelle la Sombre Garde, et donc qui a été vaincue au début de ce récit. Et donc ils sont les derniers, parmi les derniers survivants de cette caste-là. Et donc évidemment, il y a eu un avant avec une sombre garde plus puissante et qui a été écrasée par les elfelines et le camp de la lumière.
Quand tu fais tes personnages, est-ce que je suppose que tu fais plusieurs études avant ?
Alors, je fais pas mal de recherches de personnages en amont, mais j'en fais pas non plus des tonnes et des tonnes, parce que je me suis rendu compte que même si j'en fais beaucoup, les personnages, ils s'imposent petit à petit dans le récit et ils se transforment en fait dans les premières pages. et je les maîtrise mieux si je les mets en scène. Donc il faut que je sois déjà lancé dans le récit pour qu'ils prennent vraiment une forme qui me convienne. Donc oui, je prépare les choses pour pas qu'ils changent du tout au tout, mais en fait, ils sont jamais figés. Je peux pas m'attendre à les maîtriser complètement, même si je les dessine 100 fois avant. Il va falloir forcément, à un moment donné, que je les mette en scène et que je les confronte à des situations. Donc mes recherches, elles sont aussi... Elles interviennent aussi pendant la réalisation du récit.
Combien d'albums sont prévus justement ?
Alors pour Alastor, il y a deux livres. Alors effectivement, c'est le type d'univers où on pourrait sans doute élaborer beaucoup de récits. Nous verrons ça peut-être ou pas, mais en tout cas pour l'instant, on a un diptyque et on va essayer de distiller suffisamment d'indices pour comprendre l'univers dans lequel se place ce récit au sein de ces deux livres. Et puis, si éventuellement on a l'envie puis la possibilité, on aura d'autres personnages à développer, évidemment.
Je présume que dans le tome 2, on aura peut-être plus de réponses à certaines situations.
Moi, comme Dobbs, on n'est pas du genre à vouloir tout délivrer, parce que c'est des univers qui sont trop vastes pour pouvoir balancer des infos définitives. Ça serait trop et ça serait confus. On va donner des informations qui soient pas trop lourdes à digérer dans un récit. On suit quand même le fil de leur parcours et le but, c'est pas de s'en détourner trop. Mais évidemment, on va en savoir plus sur la Sombre Garde, on va en savoir plus sur ce qui lie Alastor à sa Dulcinée. Et voilà. Donc évidemment, il y aura des réponses. Sans doute d'autres questions, parce qu'il y aura des personnages qu'on va essayer de développer, mais qu'on ne va pas pouvoir développer en deux livres, évidemment.
Et justement, est-ce que cette fois-ci, pour le scénario, il a aussi pensé à ton univers d'abord? Parce que quand on s'était vu la dernière fois à Angers, tu m'as expliqué, par exemple, que pour L'Enfant démon, il avait construit le scénario par rapport à ton univers qu'il aimait. Est-ce qu'ici, c'est la même chose?
Alors, c'est un peu différent, parce que l'univers autour de la Sombre Garde est plutôt né de son passé, c'est même pas un passé, en tout cas, Dobbs est rôliste aussi, a joué beaucoup et joue encore beaucoup au jeu de rôle. Les personnages sont beaucoup inspirés de ses expériences de rôliste, mais évidemment, quand il m'a proposé le scénario, il avait l'intuition que ça collerait bien entre nous. En revanche, il y a des éléments qui ont été développés dans l'histoire, qui ont été influencés par ma manière de dessiner. Par exemple, il y a un petit personnage qui s'appelle Nox, qui est un gobelin qui intervient au milieu du récit, et qui prend part à l'aventure et qui n'était pas censé être un personnage aussi important qu'il l'est devenu. En voyant le personnage naître sous mes traits, Olivier s'est mis à le développer un peu plus et à en faire un personnage plus essentiel. Et voilà, donc il est aussi influencé par mon dessin au fur et à mesure que le récit prend forme. Donc c'est bien parce que c'est pas figé. On se répond l'un et l'autre, on s'influence. C'est un récit en mutation permanente, même si on a un fil qu'on suit, hein, mais on se laisse quand même les possibilités de le faire évoluer en fonction de nos envies au fur et à mesure où on avance.
Et justement, il y a un autre personnage aussi. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que finalement, on raccroche du mythe dans du mythe.
La Vouivre, c'est des personnages mythologiques qui ont plusieurs formes. En plus, là, on a choisi une forme humanoïde, de femme serpent, mais ça peut être aussi sous forme de dragon. Voilà. Le point commun sur ce personnage, c'est qu'ils ont toujours une escarboucle sur le front. Mais voilà, on voulait aussi un personnage mythologique qui est réputé pour être très maléfique.
Je te coupe, mais là, en plus, on la voit, elle est en souffrance.
C'était un peu l'idée, un peu une représentation de ce qu'on voulait montrer dans ce récit, enfin, des ressorts qu'on voulait utiliser, c'est-à-dire que ce qu'on définit comme le mal, dans un contexte spécifique, il va se retrouver victime d'oppression. Donc la Vouivre, elle se retrouve avec des enfants qui meurent de faim parce que voilà, elle est acculée dans un territoire circonscrit alors que l'eau est empoisonnée par les lavandières. Voilà, bah, bref, en tout cas, elle se retrouve à devoir nourrir ses petits et être dans une situation de précarité, comme tu dis. Et donc c'est intéressant de montrer qu'en fait, la vision qu'on a de tel ou tel personnage mythologique, ça peut être aussi une question de point de vue. On pourrait faire des parallèles aussi par rapport à un personnage qui n'est pas dans ce récit du tout, mais tu vois, par exemple, aussi un personnage féminin qui est la Méduse, qui est aussi un personnage qui a subi des violences et qui est maudite, et qui, au fond, n'avait rien demandé à personne et se retrouve dans une situation où elle est montrée comme le monstre. alors qu'au départ, c'est une victime. Ben voilà, donc je pense que montrer que c'est toujours une question de point de vue. Alors, je ne dis pas que le bien et le mal, c'est relatif, mais en tout cas, c'est toujours les vainqueurs qui vont donner le ton un peu des récits. Ben là, on voulait donner le ton par le point de vue des vaincus et de ce qu'on définit comme le mal.
Dans la construction de l'objet livre, comment est-ce que ça s'est passé? Tu as mis combien de temps? Au niveau du découpage, comment est-ce que tu as procédé?
Alors, c'est un peu difficile de dire combien de temps parce que j'ai fait deux projets en même temps. Donc, je suis toujours un peu sur deux bandes dessinées en même temps qui sont assez très différentes. En ce moment, je travaille aussi sur une BD horrifique qui sortira en 2027 chez Delcourt. Mais en gros, j'ai mis 8 mois pour faire ce récit, pour mettre en image. En fait, je travaille par étapes assez courtes. Hein, c'est-à-dire, je fais un storyboard de 8 pages. Que j'envoie à mon scénariste et à mon éditrice, Nadia Nem. Et ensuite, il me faut un retour. Quand c'est validé, quand j'ai fait les modifications, je fais les 8 pages ancrées, et puis à nouveau validé, et ensuite je fais la couleur. Et ça prend 2-3 semaines dans le mois. Voilà. Donc je fais par étapes de 8 pages, 8 ou 10 pages. Voilà. Donc c'est des étapes assez courtes, ce qui me permet de changer d'atelier assez vite. C'est-à-dire que moi, si je dois faire tout le storyboard d'un livre ou tout l'ancrage, au bout d'un moment, je vais me fatiguer. Là, de changer régulièrement, ça me permet de garder une sorte de fraîcheur dans mon travail et sans doute une efficacité dans la productivité, quoi.
Ça t'évite de te lasser, finalement.
Complètement. C'est long, hein. Une bande dessinée, ça reste toujours long. 25 ans que je fais ça. Donc, au bout d'un moment, il faut arriver à avoir une hygiène de travail qui te permette de rester un peu frais sur chaque projet, sur la longueur.
Est-ce qu'il y a des scènes que tu as le plus aimées et d'autres le moins aimées dessinées, je veux dire?
Les scènes plus compliquées, enfin moins fun à faire, ça peut être la scène du mariage, parce qu'il y a une foule et tout, et on est moins dans un truc fantastique, on est plutôt dans un rapport de personnages entre eux. Alors, c'est pas désagréable à faire, mais c'est pas ce que je préfère faire. En revanche, les scènes dans la forêt des 1000 pendus, des choses comme ça, avec des créatures, c'est toujours plus rigolo, plus fun à mettre en scène. Puis moi, dessiner des armes, c'est toujours un truc qui me plaît, donc voilà. Que ce soit dans L'Enfant Démon ou dans ce récit-là, La Store de son regard, ça me plaît toujours beaucoup.
Et là, c'était plus fun dans le sens où même le récit en lui-même est drôle que, par exemple, L'Enfant Démon, justement, c'est quand même assez glauque, quoi.
Mes réactions à la lecture des scénarios sont pas les mêmes. Moi, je prends plaisir dans les deux cas. Hein. J'ai toujours un énorme plaisir à travailler avec Éric Corbeyran. Là, effectivement, une réaction que j'ai rarement quand je travaille sur un livre horrifique, c'est le côté où je me marre. Vous savez, je lis une scène et je fais... Enfin, beaucoup, ça me fait marrer en avance. Là, pas plus tard qu'hier, je lisais la fin d'une double page que j'ai réalisée et il y a un personnage qui intervient et effectivement, je me bidonne et ça me... Et en fait, je me projette aussi sur ce que ça va faire aux lectrices et aux lecteurs. Donc ça, c'est assez rigolo. Et effectivement, c'est pas la même jubilation quand je dessine un récit horrifique. Ça va être l'inverse. Je dis, alors comment je vais réussir à leur faire passer une ambiance horrible ou tu vois, un truc, une ambiance qui va les mettre un peu mal à l'aise. C'est une autre jubilation. C'est pas le même jeu. Ça reste un jeu, un jeu d'anticipation avec les lectrices et les lecteurs.
T'es obligé de te mettre dans la peau du lecteur finalement pour pouvoir un petit peu te dire bah tiens quelle réaction il va avoir.
Ouais, alors obligé non, enfin ça se fait naturellement, mécaniquement c'est ce qui se passe. Je peux pas me départir de la projection, voilà, en me disant qu'est-ce qui va se passer dans l'esprit de. Alors c'est de la. Là, je peux pas être complètement sûr de ce qui va se passer, mais en tout cas les gens qui sont investis dans la lecture vont forcément ressentir ce que moi j'ai voulu. Il posait, enfin j'espère au maximum, quoi. Mais en tout cas, il y a quand même une projection, une intention qui se passe à ce moment-là. Si je rigole à la lecture du scénario et en m'imaginant comment je vais dessiner, eh ben moi, le but, ça va être de rester, de maintenir cette idée de un peu amusante ou épique. Donc quand c'est épique, tu vois, quand je vais mettre en scène un combat, le but ça devrait être de créer une tension, mais en tout cas oui, il y a forcément une projection. C'est la lisibilité qui compte avant tout et l'effet qui est imprimé par le texte d'abord. Donc moi quand je lis un scénario, ça vient tout de suite en image. Il faut que cette première intention et ces premiers effets qui passent à la lecture, j'arrive à le transmettre en dessin.
Tu as travaillé comment, à la main ou tu as utilisé ta tablette?
Ça reste à la main, hein, mais oui, je travaille exclusivement en numérique pour la BD. c'est pratique à beaucoup d'égards pour moi. En plus, je suis gaucher, alors il m'est arrivé de faire beaucoup d'accidents quand je travaillais en traditionnel. Et c'est très pratique, principalement pour ce qui est de toute la préparation du format et les précautions que je dois prendre pour éviter, pour protéger mon travail. C'est une grande aide là-dessus.
Oui, puis ça, je présume, ça te permet de pouvoir laisser davantage libre cours à ta créativité, parce que comme ça, tu peux recommencer plus aisément.
Ouais, alors je recommence assez peu, mais il y a aussi un autre élément, je me suis rendu compte de ça il y a peu, c'est que la contrainte mécanique sur le corps est bien moindre quand on travaille sur tablette que quand on travaille sur un support physique. Ce qui me permet d'aller plus vite, parce que je suis moins fatigué, donc je suis plus endurant. Mais voilà, après, c'est mon approche individuelle. D'autres auront un autre ressenti. Moi, ça m'aide à ne pas avoir de crampes ou de tendinite. J'ai jamais eu, depuis que je travaille en numérique, j'ai jamais eu ce genre de problème. Donc finalement, je trouve que c'est pas plus mal. Ça me permet de maintenir une régularité dans mon travail, de ne pas être bloqué par une fatigue physiologique.
Ça fait longtemps que tu dessines sur tablette ?
Alors, j'ai toujours fait mes couleurs sur tablette. Mais j'ai commencé à tout faire sur tablette à partir de 2009, donc ça commence à faire un petit peu de temps. Ouais. C'est pas un truc spontané, c'est un autre support. En fait, c'est le même effet. Je peux comparer ça si tu as toujours dessiné au pinceau et que tout d'un coup tu te mets à la plume. Bah en fait, il va y avoir vraiment un réapprentissage de ton trait et de ce que tu peux faire avec ton outil. Mais ouais, c'est un nouvel outil qu'il faut réapprivoiser à chaque fois. C'est le cas quand on change de logiciel aussi, mais vraiment, c'est pas spontané. C'est pas parce qu'on a un trait sur du papier qu'on va retrouver le même sur tablette et inversement. Donc il y a toujours un temps d'apprentissage. Il faut prendre ce temps-là, il faut pas se dire que c'est gagné parce que tu maîtrises ton trait sur le papier que tu vas faire le même sur ta tablette.
Le choix des couleurs, comment ça s'est fait ?
Là, je voudrais aussi parler de ce qui fait la nature de la dark fantasy beaucoup. On a souvent des univers très sombres et avec des tonalités de gris un peu, voilà, qui font l'atmosphère de la dark fantasy, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, c'est assez inhérent. Et là, je voulais avoir quand même un univers assez sombre, mais avoir des séparations marquées entre les atmosphères. On traverse plusieurs biomes différents, et même si on n'est pas dans des couleurs très très vives, encore que au début on a des rouges francs, on a des ciels orangés, des choses comme ça, mais je voulais avoir des nuances, beaucoup de nuances entre chaque scène, pour avoir une palette de couleurs un tout petit peu plus large que ce qu'on a habituellement dans la dark fantasy, pour pouvoir se rapprocher d'un univers qui soit plus du sword and sorcery que de la dark fantasy pure, et avoir une amplitude de gamme colorée un peu plus large. Donc voilà, je me suis attaché à donner une identité à chaque biome avec des gammes de couleurs un peu différentes. Voilà, sans être dans un truc vraiment très tranché. Voilà, on est dans des gris colorés, mais bon, on le voit sur la couverture, hein, on a quand même des contrastes forts. Alors moi, dès qu'il y a du bleu, j'ai envie de mettre du orange, forcément. Voilà, j'ai envie d'opposer des contrastes colorés avec des couleurs complémentaires. C'était important pour moi d'essayer de démarquer de l'univers dark fantasy classique en proposant des gammes colorées un peu plus amples.
Tu avais une deadline ?
Le bouquin sortait début d'année et je devais le finir au plus tard, ça devait être en août ou en septembre, quoi. Bon, je l'ai fini en juin ou début juillet, donc ça nous laissait un peu de marge de manœuvre et ça nous a permis aussi de bien élaborer le carnet, le carnet intime de d'Alastor. Pour le tome 2, je le finirai en mai, ça nous laisse aussi pas mal de marge de manœuvre. Donc j'essaye d'être un peu en avance pour permettre aussi à l'élaboration de l'objet de manière un peu plus confortable, à la maquette, aux personnes qui travaillent avec nous, à leur relecture, au formatage un peu des phylactères. J'aime bien que les équipes éditoriales ne travaillent pas non plus dans l'urgence, ça leur fout une pression importante et ils arrivent en dernier lieu sur la réalisation d'un bouquin. Donc c'est bien s'ils ne sont pas non plus dans le rush absolu, quoi.
Je suppose que pendant le processus, il y a un dialogue entre toi et ton scénariste. Ici, c'est Dobbs. Donc je pense qu'à mon avis, tu dois lui faire aussi part de tes dessins.
Oui, il y a des allers-retours permanents, mais beaucoup aussi avec mon éditrice, donc qui est très impliquée et qui a été d'une grande aide pour l'élaboration de l'objet, pour la façon dont on allait suivre aussi le livre de manière éditoriale. Puis toute l'équipe éditoriale a été très présente, surtout sur la fin, parce que là, au début, sur la tambouille interne, c'est mon scénariste et moi. Puis Nadia Nem qui intervient régulièrement et qui donne des consignes, des conseils, sans être non plus hyper rigide. Donc on est toujours quand même avec beaucoup de souplesse les uns et les autres. Donc ça, c'est vraiment chouette de travailler dans ces conditions. Et après, on voit qu'il y a une machine qui se met en route avec toute l'équipe éditoriale. Mais oui, il y a énormément d'échanges et beaucoup de souplesse de part et d'autre. Je trouve que c'est une manière d'être créatif. On n'est pas dans une bulle enfermée et il y a des échanges permanents. Même avec le graphiste qui a fait la maquette, une très belle maquette, je trouve. Donc on laisse aussi pas mal de parts de créativité à chaque étape aux personnes qui interviennent. Ça, c'est aussi important que chacune et chacun puisse s'approprier une partie du projet. Donc ça me semble primordial. Tout le monde doit pouvoir se sentir investi dans un projet éditorial. Nous, on est le nez dans le projet, donc il y a des choses qu'on voit moins. Le rôle d'une éditrice ou d'un éditeur, c'est quand même d'avoir un regard extérieur, d'être la première lectrice d'un projet et de pouvoir orienter, dire là peut-être que ça pourrait être un peu plus clair, est-ce que pourrait pas changer tel ou tel dialogue, telle ou telle gamme de couleurs, on reste à la manette, mais en tout cas on a des pistes de réflexion qui sont provoquées par des échanges, et c'est beaucoup plus riche et on évite, je pense, pas mal d'écueils de cette manière. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir donner une cohérence à l'identité globale du projet. On a besoin de ça, en fait. Moi, je trouve ça cool, l'idée de faire de l'auto-édition, des choses comme ça, mais j'aurais un peu peur d'être solo sur un projet et qu'il y ait des choses qui m'échappent.
Et une fois que c'est fini, que toi t'as fini, ça part justement pour impression.
Alors, il y a toute une équipe de relecture, et on fait des retours jusqu'à assez tard, juste avant que ça parte à l'impression. Donc jusqu'en novembre, on avait des dernières lectures, on a fait 4-5 relectures, pour être sûr de la clarté de ce qu'on dit, et puis il y a toujours des coquilles, donc on essaye d'éviter au maximum. Donc c'est en tension jusqu'à la fin.
Il est tiré à combien d'exemplaires ?
Alors, il a été tiré à 9000, ce qui est un bon tirage pour une première, tome 1 d'une nouvelle série. Voilà, on va croiser les doigts pour qu'il fasse un petit chemin plutôt dans le succès. On va voir. Hein. De toute façon, là, maintenant, c'est plus notre sort. Hein.
Est-ce que c'est mieux de couper l'histoire en faisant plusieurs tomes ou de faire un seul one shot?
C'est compliqué. En fait, la question s'est posée au départ. On avait un seul livre de 140 pages. Et en fait, on s'est rendu compte avec l'éditeur que si on voulait rester... C'est un livre qui est grand public. Hein, si on voulait rester dans une gamme de prix accessible, c'est-à-dire en dessous des 20 euros, on est quand même sur un prix de 18,95 €. Ce qui est quand même, pour un bouquin de 88 pages, assez accessible. Et donc, ça nous évitait de passer au-dessus des 25, voire s'approcher des 30 euros. Donc, rester accessible à des bourses plus modestes. Et ça nous semblait plus cohérent par rapport au public qu'on visait. Donc, on a décidé de séparer le récit en deux.
Les prix des BD augmentent. Ça devient maintenant un vrai objet.
Alors, c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses qui ont augmenté. Le prix du papier, tout ça. Enfin, donc, ça implique aussi de faire des choix éditoriaux qui sont plus complexes à tenir. On essaye malgré tout d'avoir un objet de qualité. Donc, avec une maquette et un objet... avec des éléments valorisants, tu vois, par exemple la dorure à chaud, le vernis sélectif, des choses comme ça. Mais on est limité par le coût final qu'on veut obtenir sur le livre. Mais oui, ça augmente pour plein de raisons extérieures, la rémunération des artistes ou des voilà. Et puis c'est le prix unique du livre. Il y a des potards sur lesquels tu peux pas trop jouer. Donc forcément, s'il y a le papier qui augmente ou le prix des imprimeurs qui augmente, ça va jouer sur le prix final de l'album. Et là, ça fait quelques années que c'est difficile de tirer vers le bas. Donc on est forcément sur des livres qui sont au-dessus de 15 euros. Si on peut se maintenir entre 15 et 20 euros, c'est bien. Mais dès qu'on passe 100 pages, ça devient vraiment compliqué. C'est pas gérable.
Et justement, le métier de dessinateur, d'illustrateur, est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'en vivre ?
C'est compliqué d'en vivre si on n'a pas un rythme de travail très, très efficace. Même efficace, j'en sais rien. Mais en fait, on est toutes et tous avec nos process différents et on ne peut pas non plus Il y a des personnes qui vont faire de la couleur directe, des choses comme ça, qui ne vont pas pouvoir faire un album en 8 mois, tu vois. Et ce n'est pas une course, en principe. C'est difficile de trouver un équilibre pour en vivre. Moi, j'ai la chance d'avoir un process qui me permet d'aller relativement vite, mais je ne peux pas descendre en dessous d'un certain revenu. Donc, il y a quand même un moment donné où ça devient incompressible. Et il y a d'autres personnes qui vont faire, je sais pas, un bouquin de 200 pages et qui vont avoir une enveloppe beaucoup plus réduite. Et je ne sais pas si, à un moment donné, on va atteindre des limites qui sont pas gérables. Mais oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis, encore une fois, on n'est pas égaux. Chacun a son rythme de travail et le rythme de travail, il ne définit pas la qualité du travail. C'est pas parce qu'on va vite qu'on va faire les choses bien et inversement. C'est pas évident. Il faut trouver un équilibre et on marche un peu sur des œufs à chaque fois qu'on négocie un nouveau contrat. Ça dépend de l'état du marché. En ce moment, l'état du marché de la bande dessinée est pas très est un peu difficile. Donc, on a moins d'amplitude, moins de marge de manœuvre pour proposer, pour que tout le monde y trouve son équilibre et sa satisfaction. Donc il faut négocier plus dur. Il y a des limites qu'on ne peut pas franchir, ni d'un côté ni de l'autre. Donc on marche toujours sur un fil. Donc c'est pas évident en ce moment.
Je suppose que ce travail-là, toi tu fais plus de SF. Quand tu avais fait Visage, c'était totalement différent.
Ouais, alors après, j'essaye de pas avoir d'étiquette. Mais c'est vrai que là, récemment, ça a été Visage. L'Enfant des Monts est sorti, mais comme c'est chez un éditeur plus indépendant, ça c'est peut-être un peu moins vu, mais je suis du genre à changer d'univers à chaque bouquin quasiment. Après, c'est vrai que mécaniquement, enfin pas mécaniquement, mais en tout cas naturellement, j'ai tendance à aller vers le fantastique, soit l'horreur, soit l'horrifique, soit la fantasy, soit des choses comme ça. Après, l'historique, Visage, je vois pas ça comme un récit historique, c'est plutôt un récit romanesque. Il se trouve que c'est dans un contexte historique, mais c'est avant tout un récit romanesque. Mais voilà, oui, effectivement, là, ça se démarque un petit peu d'un Alastor ou d'un Enfant des Monts.
Il y a un genre, justement, vers lequel tu voudrais aller et que tu n'as jamais essayé ?
La SF, je l'ai essayé vaguement, un petit peu au tout début, et puis un peu avec Eric Corbéan, avec Chrony, mais c'était une SF plutôt soft. J'aimerais bien, mais voilà, pas dans l'immédiat, parce qu'il y a d'autres choses avant. Mais j'aimerais bien la SF, ouais.
Qu'est-ce que les gens en pensent ?
Il y a plein de gens qui découvrent le récit, donc ils ne l'ont pas encore lu, mais les premiers retours sont très positifs, donc on est content. Les retours des libraires aussi, il y a un vrai engouement, et c'est très satisfaisant parce que la plupart des gens comprennent bien ce qu'on a voulu faire. En dédicace, pour l'instant, j'ai fait 4 séances de dédicace. C'est la cinquième aujourd'hui. J'en ai encore beaucoup jusqu'à l'automne, donc voilà, j'ai une trentaine de jours de dédicaces prévus, donc voilà, pour l'instant les retours sont très très cool.
Ça se décide comment, la dédicace, justement ? C'est des dates qu'on te propose ?
Souvent, c'est des libraires que je connais qui me disent ouais, t'as ta sortie, est-ce qu'on peut se faire un truc, et dans ce cas-là on organise ça avec la personne en charge de la promo chez Oxymor. Soit ils contactent directement l'éditeur et c'est le festival, et j'ai des propositions directement via mon éditeur Oxymor. C'est Aurélien Morinière pour Explore le Mag, et on présentait Alastor de Sombre Garde, que je dédicace tout à l'heure à l'Hydragon. Le tome 1 est sorti ce mois de janvier et le tome 2 sortira en octobre prochain.
C'était Alastor de Sombre Garde, la dernière bande dessinée d'Aurélien Morinière. Un reportage signé Explore le Mag, à la prise de son et au mixage Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.